Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous. En ce lundi 11 mars, on vous souhaite un bon mois de Ramadan, le mois sacré. Et voilà, pour toute la communauté musulmane, on est ensemble justement jusqu'à la fin de ce mois de 21h à 22h. Avant d'accueillir Vanessa, on le rappelle, 22h minuit, on sera ensemble avec toute l'équipe de Time Sport pour vous faire passer un agréable moment, pour vous désaltérer. Voilà, c'est la petite gourmandise de la soirée. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Après le ftor, on est tranquillement avec toute l'équipe de Time Sport. 21h, 22h. Au menu de cette émission, on va revenir sur quoi ? On va revenir sur la boxe du week-end. Il y a eu des sports de combat, beaucoup de disciplines depuis jeudi jusqu'à la nuit de dimanche. On va revenir aussi concernant l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille peut être une mésaventure ou pas. L'évolution, elle est là, gassée. L'effet, justement, gassé est bien présent dans la cité phocéenne et pas que à travers l'Hexagone. L'Olympique de Marseille, donc, le club renaissant. Et on parlera de badminton et des JO 2024. Et oui, ça approche à grands pas. On voit des travaux dans les rues de Paris et pas que sur Paris, dans la région parisienne et aussi à travers le pays. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. D'ailleurs, on vous expose le débat du jour. Gassé, c'est quoi sa formule selon vous ? On l'a vu durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Il a été après limogé, mais on a vu justement les éléphants de la Côte d'Ivoire remporter ce tournoi, hein, qui est la CAN. Et bon, il a débarqué du côté de la Canebière et là, ça va très très fort pour Gassé et ses hommes. Et en tout cas, ça joue vraiment très bien. On voit un jeu assez incroyable de la part de ses joueurs. 17 buts, je crois, de la part ou 18 de Aubameyang. On va revenir sur cela, c'est promis. Allez, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Et pour parler.
Plus souriant, c'est justement Karim qui est avec nous ce soir. Bonsoir Karim.
Bonsoir à tous.
Comment ça va Karim ?
Eh ben ça va très bien. Bilal.
Tranquillement, tu vas bien manger Karim ?
Ouais. J'ai mangé un tout petit peu. Voilà, c'est le Ramadan, ouais. Tranquille.
On va se rattraper après
c'est le
alors.
Jour.
Avec Karim, ouais, c'est le premier jour, c'est ça. Boula est avec nous, juste à côté de Karim. Bonsoir Boula, comment ça va ?
Salam alaykoum à tout le monde.
Tu vas bien ?
Ouais,
tranquillement, Boula.
Bon Ramadan à tout le monde.
Voilà, bon Ramadan à toutes et à tous. C'est ça, Augustin, il est avec nous aussi.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, Augustin.
Bon Ramadan.
Comment ça va, Augustin ?
Très, très bien.
Tranquillement, Augustin ?
Tranquillement.
Oui.
Toujours avec. Très sympa d'être là.
Avec Boula.
Avec Boula, Karim. Le très discret Boula.
C'est ça. Tous les lundis, Boula est avec nous. Juste en face, on peut
et
retrouver.
Et les autres aussi. Hein.
Oui, les autres. Mais justement, on va retrouver vous. Alexis. C'est son sourire. Alexis, bonsoir.
Salut,
comment ça va, Alexis ?
Bonsoir à tous. Bah écoute, ça va. Un beau week-end de sport. Hein. On n'a pas beaucoup dormi, beaucoup de sport de combat. Du rugby aussi avec la victoire de l'équipe de France.
Ouais.
La Liga, évidemment. Le City Liverpool.
Oui, aussi.
Le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Ouais,
donc
il a bossé.
C'était n'importe quoi. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai du temps pour se préparer.
La barbe,
elle est c'est ça. Ouais, c'est comme HD. Bonsoir HD, comment ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien.
Tranquillement ?
On est en place.
On est en place, on est bien là, avec voilà. Solal, au 01-53-48-3000. Oui, on t'écoute.
Une HD. Petite pensée pour Chloé Ngazi.
Ouais.
Voilà, il y a peu de gens qui la connaissent, mais la gardienne de l'équipe de football de Fleury, internationale algérienne, et qui a réalisé l'exploit ce week-end en éliminant Lyon. Voilà, pour ceux qui suivent
mais
le
ça,
football
c'est
féminin,
mal.
Éliminer
ouais.
Lyon, c'est pas n'importe quoi, et surtout quand on est Fleury.
Un entraîneur aussi de,
un certain Fabrice Abriel, voilà,
c'est ça.
Qui est connu.
Boulay le connaît bien, je crois.
Voilà.
Ouais.
Des deux
Fabrice
côtés,
Abriel, PSG, non. Marseille.
C'est lui qui me connaît.
Ouais, c'est lui qui me connaît. Voilà, ça c'est Boulay. Voilà.
Fabrice, c'est lui qui me connaît.
Il disait pareil que Zidane.
Ouais, c'est lui, c'est lui aussi le connaît. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On l'avait reçu.
J'aime beaucoup Fabrice.
Ouais.
Ah, il fait du très bon travail à Fleury là depuis qu'il est devenu le coach.
Et là, c'est lui le coach.
Ouais, c'est lui le coach.
Ça fait 2 ans et
Canal Plus aussi.
Voilà, il fait un très bon boulot et cette victoire face à Lyon en Coupe de France, c'est un très très gros coup de la part de Fleury qui va jouer le PSG en finale, donc ce sera au moins aussi difficile, mais voilà, c'était très très fort ce qu'elles ont fait ce week-end.
Ah ben, justement, par contre, ils ont
pour préciser, ils ont un grand président, Pascal Beauvis, qui a construit bien le club. Vraiment sur
et tout
qu'il
a fait sur les féminines
ouais. Et il a des au niveau des jeunes il a des bons gamins de qualité parce que comme il y a une mission de football Pascal Beauvis a beaucoup investi sur Fleury sur club
et puis il a renversé le truc parce que moi je suis de Saint-Genis donc c'est la ville juste d'à côté et c'était nous qui étions leader pendant des années et Beauvis il est arrivé et là il prend tous les jeunes enfin voilà
c'est fait partie des clubs amateurs un des plus grands présidents qu'il y a dans le monde amateur de la région parisienne.
Ben, Ciboula le dit, ben ça c'est super. Allez, c'est notre tchit ce soir, il est avec nous. Il a vraiment une magnifique casquette. C'est Solal à la réalisation. Bonsoir Solal.
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien les amis. Ben, très heureux d'être là avec vous. 21h, 22h, c'est votre nouvel horaire forcément pour Timesport. On
le répétera
tout au long de la semaine, mais c'est vrai que les programmes que vous aviez l'habitude de retrouver le soir ont un peu changé.
Eh oui.
Que ce soit donc les informés d'Adil Farkan le matin qui sont passés de 11h à midi.
Eh ouais.
Après voilà, vous avez AVS forcément.
Aussi, la matinale avec Foudil, avec Didier Kim.
Vanessa qui est bel et bien là ce soir, non pas à 21h pour ceux qui nous appellent depuis tout à l'heure au standard, c'est à 22h, donc
c'est
dans une heure qu'elle sera là. En tout cas, très content d'être ici.
Ouais, mais la communauté de Vanessa peut nous appeler pour rigoler avec nous
et
débattre aussi de sport, justement. On va parler de badminton avant de parler de boxe et aussi de l'Olympique de Marseille. Agé, il s'en est passé des choses du côté de Paris, dans le nord-est de Paris. Oui, c'est bien ça.
Du côté de la Chapelle, oui.
Ouais.
Oui, une très belle découverte en ce qui me concerne, puisque comme on est en année olympique, c'est l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir des sports qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur nos écrans. Et donc la semaine dernière déjà, je vous parlais de ces internationaux de France de badminton. Et donc c'est un tournoi qui s'est terminé hier, donc du côté de la Porte de la Chapelle et de sa flambant neuve Adidas Arena, donc qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un mois. Et donc il faut savoir que c'est un tournoi qui existe depuis des décennies, puisque c'était sa 94e édition cette année. C'est un tournoi qui existe depuis 1908. Mais à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc cet été à Paris, c'est un tournoi il y avait un peu plus d'attention autour de ce tournoi, parce que c'était un espèce de test event, ce qu'ils appellent les événements test.
Ouais.
Donc pour
ça gros, c'est pas mal la traduction test event, les événements test.
On est pas mal la traduction, non?
Hein,
on est bien.
Vas-y.
Vraiment. Moi j'aime beaucoup.
C'est une belle chronique.
Ouais. Ouais.
Alors vas-y. Non, parce qu'on dit il faut franciser certaines expressions. On va raviser aussi
test event.
Vas-y, si tu veux.
Donc ce contexte pré-olympique, il a impliqué deux changements, puisque c'est un tournoi qui se déroule habituellement du côté de la salle Coubertin, donc
ouais,
dans l'ouest de Paris. Il y a déjà l'année dernière, il y avait une délocalisation un peu plus à l'ouest en Bretagne, mais là, le choix de le mettre à l'Adidas Arena, c'est tout simplement voilà, parce que c'est ce nouveau stade, donc du côté de la Chapelle, qui va accueillir le tournoi de badminton cet été au Jeux.
Est-ce que vous savez quels sont les autres événements aussi?
C'est pour ça qu'ils ont refait là-bas.
Ils ont refait tente là-bas. Ouais.
C'est pour ça qu'ils ont refait tous les trottoirs là-bas. J'ai vu qu'ils étaient en pleine construction des
trottoirs. C'est pas fini.
Ça
sera après les JO.
C'est l'université qui est en train d'être construite juste en face d'Adidas Arena.
Le club des.
C'est-à-dire qu'il fallait attendre les Jeux Olympiques pour vraiment.
T'as quelque chose?
Oui, c'est le renouveau, c'est les Jeux Olympiques.
4,20€ le billet de métro.
Les événements prévus.
Voilà les Jeux Olympiques.
Les autres événements prévus du côté de l'Adidas Arena HD. Ouais.
On va rappeler. Donc il y a le badminton, aussi bien pour les Jeux Olympiques que Paralympiques, donc le para-badminton. Et donc il va y avoir aussi la gymnastique rythmique, sport préféré de Boula. Si je dis pas de bêtises.
Il en a fait il y a encore pas longtemps.
Avec un beau ruban.
Je suis pas Kamel. Tu sais que je suis pas Kamel Wally.
Je suis pas Kamel Wally,
mais ça reste une star dans ces milieux-là. On a un franco-algérien qui nous a fait découvrir des spectacles de folie dans le monde entier. Qui vient de la Courneuve.
Une certaine Safia Boutella aussi chez les filles. On a du monde. Et donc il y aura aussi l'haltérophilie, donc pour les Jeux paralympiques qui se dérouleront là-bas à l'Adidas Arena. Donc voilà. Donc moi j'ai assisté un peu à ce tournoi, donc on a vu justement cette logique un peu de réglage autour de l'organisation, que ce soit pour familiariser les badistes, donc voilà, mot qu'on a appris la semaine dernière.
Ouais, avec Karim aussi.
Donc avec ce nouvel espace de jeu. Et une petite digression, on dit souvent que les grandes compétitions se jouent sur des détails, et dans le cas du badminton, les détails, ça peut être par exemple l'éclairage d'une salle qui peut gêner aussi
le parquet aussi.
Le parquet, et ça peut être aussi la ventilation, l'air conditionné,
avec le volant
qui fait partie. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle le drift en fait en badminton, donc
en français
l'impact, en fait, en gros c'est l'impact de la circulation de l'air, donc de la ventilation sur le volant, et donc en fonction par exemple du côté où vous êtes sur le terrain, ce drift il peut faire que quand vous frappez le volant, votre volant va aller plus loin ou au contraire être freiné en fait par ce drift. Et donc ça, c'est un aspect qui, dès que des joueurs de badminton rentrent dans un nouveau stade, ils sont préoccupés par ce drift, à regarder voilà si je suis de ce côté là quel est le drift, et
puis il y a la qualité du volant aussi, et la et les plumes.
On a beaucoup de réactions HD avec justement Karim et aussi Solal.
Concernant le badminton. Bien sûr, mais par rapport au sport de raquette, on a la chance en beaucoup. France, parmi les 5 sports de raquette majeurs que sont le paddle, le squash, le tennis, le ping-pong et le badminton, d'avoir
évolution.
Le ping-pong et le badminton qui sont pratiqués dans les écoles. Bah, genre, je peux en témoigner aussi. Après, peut-être que voilà, j'ai connu des écoles plus parisiennes que banlieusardes, entre guillemets. Ouais. Et j'imagine aussi, pour avoir des connaissances qui aussi ont pu faire des lycées, que ce soit à Juvisy, que ce soit dans le 9-1, dans le 9-4 et dans toutes les cités de France, c'est des sports qui sont représentés, le ping-pong et le badminton. Et comme le dit HD, je trouve ça intéressant aussi. On est un peu de temps consacré à ce sport qui est malheureusement
on en aura jusqu'au
pas très connu,
qui est médiatisé au collège, mais qui après n'a pas de n'a pas de d'écho, et donc forcément
le ping-pong ces derniers mois avec les frères Lebrun, quand même on en a
on
beaucoup plus parlé que
le sport qui a explosé en France, c'est quand même le paddle. C'est Henri Lecomte, Henri Lecomte qu'à l'époque il me disait qu'en Espagne c'était exceptionnel, c'était leur sport favori avec le football. Henri me disait que voilà, en France ils connaissent pas le paddle, ça fait une quinzaine d'années. Aujourd'hui maintenant tout le monde s'est mis au paddle, carrément. Les quartiers, les banlieues, et c'est un sport qui est en train de
Alors, vas-y. C'est qu'on parle forcément de badminton, et c'est une des représentations des sports de raquette, que ce soit à la petite échelle chez les collégiens, les lycéens. Mais qu'est-ce que tu vois par rapport à ces autres sports de raquette qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place, que sont le paddle, le squash et le tennis, par rapport à l'évolution que va potentiellement connaître la France sur ces sports-là? Est-ce que tu penses un jour que ces sports qui sont déjà des sports où on est bien représentés, que ce soit en tennis, en ping-pong ou en badminton, est-ce que tu penses que pour le squash et le paddle, plus le tennis pourquoi pas, il y aura beaucoup plus de pratiques que c'est le cas déjà en France?
Je pense que c'est une question d'espace. Le bon exemple par rapport à ça, c'est le Danemark, où par exemple le badminton, c'est un des sports majeurs au Danemark. Le numéro 1 mondial, par exemple, en simple chez les garçons en badminton, c'est un Danois. Et en gros, ça a été lié à la construction de gymnase. C'est-à-dire que la météo au Danemark fait qu'il y a des sports d'été, comme par exemple le football, et il y a des sports d'hiver. Ça peut être le hockey, et donc ça peut être le badminton. C'est-à-dire que les gymnases sont utilisés à la fois, par exemple, pour le handball, qui pareil est le sport collectif majeur au Danemark, et aussi pour les compétitions de badminton. Donc finalement, par exemple, le problème pour un sport comme le tennis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui s'intéressent au tennis en ayant regardé Roland Garros, en disant je vais faire la même chose, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'espace et de cadres organisés. C'est souvent cher, par exemple, de s'inscrire dans un club.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas autant de vedettes sur la terre battue, comme ils ont du mal à fabriquer des terrains pour la terre battue, qui est différent d'avec l'Espagne.
Peut-être, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le badminton, et c'est le cas aussi pour le tennis de table, à partir du moment où vous avez un gymnase dans un quartier, il peut servir à plusieurs sports. Donc le badminton, de fait, il correspond à des installations qui existent déjà. Et alors après, le deuxième aspect, c'est que effectivement le badminton en termes de spectacle, c'est-à-dire pas simplement jouer au badminton, mais aller payer sa place pour, c'est encore un succès relatif pour un tournoi comme Paris. Il y a eu 22 000 spectateurs à peu près sur 6 jours. Donc ça vous donne, c'est à la fois c'est pas mal, mais bon début, par exemple pour un stade comme l'Adidas Arena, ça veut dire que le
vide,
voilà, c'était pas ça plein, les meilleurs soirs, c'était vous aviez la salle qui était à moitié plein. Ce qu'ils ont fait en termes de mise en scène, et qui permettait de relativiser un peu cet aspect là c'est qu'en fait les tribunes sont plongées dans le noir, c'est-à-dire vous avez uniquement les terrains.
Donc il n'y a pas cette impression de vide
Je peux savoir, tu fais quoi comme boulot?
Fais quoi comme boulot? Non mais lui, je sais pas,
je te trouve très brillant dans ta réflexion par rapport à
je vais te dire qui est HD. HD, c'est le concepteur avec moi de cette émission qui est Tom Sport, voilà, tout simplement, tu vois.
Merci HD, il a un potentiel énorme.
On se suit depuis belle lurette. HD, vas-y.
Donc voilà.
Sans prix. Donc Boula, parce que on va l'inscrire, Boula. On va lui prendre une licence.
Non, je vais
lui
faire un rendez-vous avec le ministre des Sports.
Augustin.
Il y a beaucoup de clubs d'arrondissement
qui sont bookés. En fait, vous êtes sur liste d'attente.
Ah, c'est plein.
Ah. Ouais, ouais. Ouais. Et franchement, il faut s'y prendre vraiment là. Là, pour septembre, il faut s'y prendre maintenant.
Oui.
Donc, si ça vous intéresse, moi, j'ai quelques adresses.
Ah, ben voilà. Eh ben, on va consulter aussi Augustin. Ouais, Augustin, sur les réseaux sociaux aussi, on va tout le monde.
Bien sûr.
Mais vraiment pour s'inscrire. Ouais. HD, pour terminer, parce que c'est la fin de cette première partie.
Donc, il y a un enjeu pour le badminton de créer une dimension de spectacle, c'est-à-dire pas simplement de pratique. Et voilà, et donc cet Open de Paris, clairement cette année, il a plutôt, moi je trouve plutôt réussi, puisque vous aviez les meilleurs joueurs de la planète. Il y avait une vingtaine de champions du monde, 8 champions olympiques, les numéros 1 mondiaux dans toutes les catégories. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi le tournoi, que ce soit sur place ou sur YouTube, parce que tous les matchs ont été diffusés sur YouTube, le spectacle a été au rendez-vous.
Je peux être ton agent?
Ah bah il peut.
Là, vas-y, y a pas de problème. Un dernier point,
rapide.
Si par hasard ça peut évoquer quelque chose pour vous, il y a quelque chose que le sport pourrait emprunter avec la musique, c'est quelque chose qui est nouveau et des ingénieurs se sont penchés sur ce concept-là. Ouais. C'est qu'en fait ils ont observé que dans les clubs de DJ, enfin en tout cas les clubs de nuit qui proposaient des sets de DJ, les gens venaient plus, c'est normal, s'il y avait beaucoup de monde. Et en fait ils ont utilisé une astuce de scène rétractable qui avait la possibilité d'avancer le plus proche de la porte de telle manière à ce que les gens pensent que ce soit complet. Et plus il y avait de gens, plus la scène reculait. Et je pense que c'est quelque chose que le sport peut s'inspirer de ça potentiellement pour des sports qui sont pas très vus comme le badminton. Ouais,
pas faux. Solal, il reste avec HD, aussi Karim, sans oublier Augustin, Boula et notre Alexis. On va revenir avec l'Olympique de Marseille. Restez à l'écoute.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, avec Alexis au 01 53 48 3000, sans oublier HD, Karim qui est de la partie, Boula et notre Augustin National qui nous fait le plaisir de nous assister jusqu'à 22h. 22h, c'est qui? C'est Vanessa qui arrive jusqu'à minuit, horaire de Ramadan oblige. Ça a foutre comme à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On est avec le Tchi à la réalisation, ça nous fait grand plaisir, hein. Et oui, ça remonte dans les souvenirs, tu sais, Boula, on le croisait sur les places de la Havane à une certaine époque. Allez, c'est parti, Marseille.
Time Sport. La parole des sociaux.
Allez, fais-nous sourire, gacé. Eh oui, l'électrochoc marseillais, c'est ça, Karim.
C'est incroyable ce qui se passe. 5 matchs, 5 victoires. Voilà, en fait, il colle bien pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est les joueurs, je crois, ils ont eu un ultimatum avec lui. Il y a eu un sort de déclic. Il y en a, ils parlent de magicien, de...
Ouais.
Voilà, et ouais, ça peut être un magicien, pas un sorcier, hein, on va dire magicien pour rester dans les terres, parce que c'est une vie sorcier. Ouais, là, mais non, franchement, Gassé, grand respect à lui, en fait. Les joueurs ont.
Cette équipe reste séduisante, on a l'impression. C'est assez fluide comparé à avant.
C'est
une impression peut-être.
Ouais. Moi, pour moi, ça reste l'OM normal. Ça doit être tout le temps comme ça, l'Olympique de Marseille. Moi, pour moi, on est dans une certaine logique là. Mais respect à lui parce que Gassé connaît le football. Il est revenu à des fondamentaux assez basiques, assez classiques. Et entre les deux, entre les joueurs et lui, ça a matché.
Alexis, ils étaient quand même sur 7 matchs sans victoire avant l'arrivée de Gassé. Là, il prend l'équipe, 5 victoires de suite. Je crois que c'est la première fois depuis le début des années 60 qu'un entraîneur prend l'OM et remporte ses 5 premiers matchs. Donc, quand même, c'est une performance. Après, moi, j'ai l'impression que, bon, jusque maintenant, c'était quand même des matchs assez flamboyants où il y avait beaucoup de buts. Hier soir, ils ont été dans le dur à de nombreux moments et j'ai trouvé que l'équipe faisait bloc, ce qui n'était plus du tout le cas avec Gattuso. Ouais. Donc là, j'ai trouvé qu'il avait réussi peut-être à réanimer l'aspect guerrier des joueurs et que les mecs ont envie de se battre.
Ils n'avaient plus de jus par rapport à au match d'avant.
Dans le sens c'était moins spectaculaire, il y avait moins de buts,
ils ont par contre le bloc défensif est rassurant.
Ouais,
sur Marseille,
c'est ça.
Le bloc offensif, ils ont été velléitaires, ils ont planté les deux buts qu'il fallait. Après, il y a une controverse sur l'arbitrage.
Mais il y a quelques erreurs d'arbitrage. Ouais.
Globalement, le match est plutôt réussi. Défensivement, c'est rassurant pour cette équipe. Voilà, ils vont être dans le dur. Nantes, c'est pas forcément le dur. Le dur, c'est Rennes. Le dur, c'est le match retour. Il y a le match retour de Villarreal et il y a le PSG. Et on verra.
Non, mais dans le dur,
comptablement, en tout cas, je trouve que c'est un football qui est plutôt efficace défensivement et offensivement, qui a besoin de voir sur la durée.
Non, mais c'était dans le dur, dans le sens où hier, ils ont pas réussi à marquer beaucoup de buts, à faire beaucoup d'actions, alors que jusqu'à maintenant, les 4 autres matchs qu'il avait fait gaffer, je trouve que ça jouait beaucoup
ils
mieux.
Ils ont joué jeudi soir.
Ah, bah oui,
ils ont joué jeudi soir. Ils étaient émoussés. Donc,
mais là, j'ai trouvé que même en difficulté, j'ai trouvé qu'ils avaient tenu, il avait réveillé l'esprit guerrier de certains. Voilà. Donc, on pensait qu'il avait disparu chez certains joueurs.
Ce genre de match avec Marcellino et l'autre italien et Gattuso, je pense qu'il le perdait, il faisait match nul.
Bien sûr.
Mais c'était
tous les jours.
c'était un problème de langage. Je veux dire, voilà, Jean-Luc Gasset, c'est un Français, il parle français. Avec Gattuso, Marcelino, il parlait pas français forcément, ça n'a pas trop marché. Mais ouais. Non, mais là, c'est en termes de communication. En fait, je pense qu'il y a eu un message, il y a eu quelque chose. C'est un déclic mental, en fait. Et ça se voit, en fait. Ça se voit quand t'enchaînes comme ça maintenant des victoires, etc. Maintenant, voilà, ils vont être dans le dur, comme l'a dit Augustin. Ils vont être dans le dur dans quelques matchs.
Déjà, pour éviter
après,
des.
Voilà, après le 4-0 à l'aller.
Il y a Rennes dimanche.
Ils sont sur un matelas bien, bien, bien.
Enfin, rappelle-toi, la dernière fois qu'un club a gagné 4-0 à l'aller et ils sont partis jouer en Espagne, ça s'est très mal passé.
Oui, c'est pour ça.
Attention, ça serait incroyable.
D'ailleurs, petit stade par rapport à la remontada, chers amis, sur le Paris Saint-Germain, c'est qu'il ne reste plus aucun joueur qui n'a vécu la. Enfin, plus aucune personne au PSG qui n'a vécu la remontada, si ce n'est Luis Enrique. Donc, ce PSG-là, c'est la fin d'une page aussi qui se tourne. C'était une toute petite aparté, mais c'est vrai que, comme tu disais, vous faites attention au match retour.
Alors, c'est pas le sujet de Paris Saint-Germain.
Moi pour moi là t'as affaire à deux formateurs, Gasset et Justin Printemps. C'est des mecs qu'on formé qui savent un peu la psychologie des joueurs. C'est qui sachent un peu la psychologie des joueurs. Et ce qui a fait du bien, Karim l'a dit, ce qui a fait du bien, c'est ce côté psychologue de formateur qui arrive à tirer le maximum de ses joueurs.
C'est le papa.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, c'est pas le papa.
Il fait pas
non, non, mais
papa,
non, non, mais non, mais parce que
automatiquement.
Non, pas du tout. Il fait pas le bout de c'est leur métier. C'est leur métier. Tu prends Antonetti qui prend Strasbourg l'année dernière, qui arrive à tirer le maximum des joueurs et qui arrive à les maintenir, et qui ils sont à la ramasse. Il y a plus le problème, c'est qu'aujourd'hui les présidents, ils font des choix de joueurs, ils font des choix, c'est eux qui commandent, les directeurs sportifs, c'est eux qui commandent. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils n'ont pas tous les pouvoirs pour pouvoir travailler sereinement. C'est pour ça que.
Non, mais là, à Marseille, c'est Tessier aussi qui décide avec Longoria. Je pense qu'on a.
Non, c'est pas Tessier.
C'est
Tessier qui a mis la main. C'est Tessier qui a mis le pied où il fallait.
Voilà.
Et voilà, il a à un moment donné, il a dégagé tout le monde.
Bah voilà.
Il a fait rentrer.
Il cornaque Longoria.
Tessier de Saint-Etienne, on est d'accord.
Tessier de Saint-Etienne. Et là, tu sens que Tessier de Saint-Etienne, il sent ce côté formateur de chez Jean-Louis. C'est pour ça qu'il l'a ramené. Son côté protecteur des joueurs. Et aujourd'hui, ce qui fait la force de Jean-Louis, c'est tirer le maximum de ses joueurs. Après, il ne faut pas oublier aussi Ghislain Printemps, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Aussi.
Il a replacé tous les joueurs au poste où ils étaient.
Et il a changé de système. Il a changé de système aussi.
Jean-Louis, à un moment donné, c'est un petit peu hors de lui. Tu prends Clause. Alors, tu te rends compte, dans le club, tu es à l'Olympique de Marseille, tu n'as qu'un latéral droit, c'est lui. Il n'y a même pas
de métier.
Il y en a qui peuvent faire les deux parce qu'ils sont obligés de prendre un joueur d'un autre poste pour le faire jouer latéral droit. Alors si tu me dis qu'il y en a d'autres, ça veut dire que
je dis qu'il y en a qui peuvent faire et ceux qui
savent jouer latéral droit. Le problème, c'est la cellule de recrutement. Normalement, dans tous les grands clubs au monde, t'as deux trois profils.
Surtout quand tu joues la Coupe d'Europe.
Quand t'es blessé, t'as le numéro 2, t'as pas de numéro 3. Alors, ça veut dire que dans son métier, il est obligé de prendre un joueur qui est pas à ce poste-là à la place de Klose, parce que c'est intéressant, vraiment.
HD, on va l'écouter.
Pour aller dans
Karim aussi, Amoré enchaîné.
De ce que dit Boula, je pense que. Un des avantages de Jean-Luc Gasset, c'est que le temps d'adaptation, il est très court. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un coach qui ne connaît pas la Ligue 1. Jean-Louis Gasset, tous les joueurs qu'il a dans son effectif, la plupart, c'est des joueurs soit qu'il a eu en face de lui quand il était coach dans deux clubs de Ligue 1, voire même quelques-uns qu'il a eu rapidement ou pendant quelques mois.
Tous à l'unanimité, tout ce qu'ils ont eu, de te couper.
Ouais, Augustin.
Tout ce qu'a eu Gasset sous les ordres, ils sont tous unanimes quasiment, quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de dissonance sur le travail de Gasset.
Voilà, donc après, faut pas oublier qu'il y a un vol manifeste hier. Au niveau de
Le problème, c'est qu'hier,
l'arbitrage. Mais non, je sais pas, le VAR.
Non, mais Nantes, ils ont fait un communiqué.
Je sais pas, tu dis qu'il n'y a pas pénalty. Mais si l'autre, il voit le VAR.
Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas pénalty. Là, j'ai dit que Nantes avait fait un communiqué pour se plaindre de l'arbitrage. Donc voilà, ils ont sorti ça tout à l'heure pour expliquer que c'était voilà, il y a la faute en première mi-temps, il y a les plusieurs mains aussi, plusieurs situations de mains bizarres avec une de Mbemba notamment qui est sifflable. Donc Nantes ils ont fait un communiqué pour critiquer l'arbitrage.
HD, avant de retrouver Karim.
Pour moi le deuxième aspect et qui joue pour Gasset, c'est que il a identifié, on va dire, les joueurs qui de son point de vue sont importants dans l'effectif.
Ouais.
Voilà, on a beaucoup parlé de d'Aubameyang, comme par hasard aussi le retour de Klose arrive à un moment où en gros la fenêtre du mercato elle est close et de fait les coups de pression de la direction via Benassia etc.
Bien
sur
sûr.
Klose, bon bah on est passé à autre chose. Donc il a réinstallé des joueurs importants dans l'équipe dans un rôle, enfin on voit Klose, Aubameyang, Brig. Et après il y a l'autre aspect qui relève ni de Gasset ni de Gattuso, c'est que il y a des joueurs importants, des titulaires qui sont revenus de la CAN et qui aujourd'hui font aussi de bons matchs. Prenez Ismail Assar, vous prenez Amin Harit, prenez Chancel Mbemba aussi
qui leur a manqué beaucoup,
en défense. C'est des joueurs qui après un ou deux matchs d'adaptation de retour de la CAN, là de nouveau sont installés et participent aussi à la bonne santé de l'OM en ce moment.
Ouais, Karim.
Et moi juste
Marseille.
Pour finir, ouais, et
vas-y.
En fait
on a le temps pour Marseille,
Gasset,
hein.
il s'informe sur tous ses joueurs en fait, c'est incroyable. Il connaît tous ses joueurs,
bien sûr.
Il connaît leurs points forts, leurs points faibles. Et en fait, je crois que c'est ça.
C'est sa force, c'est sa proximité. Force.
Exactement,
sa
parce
proximité.
Qu'il sait de quoi il parle, en fait.
Ouais, bien sûr.
Concrètement, il sait de quoi il parle. Il sait où il veut emmener son joueur. Comment il va le faire évoluer.
Ouais.
Comment il a envie de le faire jouer.
Ouais, carrément.
Et c'est ça, en fait.
Et les conférences de presse, ça fait longtemps qu'un entraîneur, je trouvais ça plaisant à écouter. Parce que c'est un entraîneur qui dit les choses, c'est naturel, c'est vraiment il a une communication fluide,
il y a un truc
voilà, et puis franchement,
marrant,
hein. Il pas de langue de bois, il dit les choses. Voilà.
Ouais. Et
c'est
bien renseigné,
c'est pas comme Martinez quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu disais à HD, c'est exactement
alors,
ça, c'est que la connaissance du football français fait que c'est pas grave si tu le prends en milieu de saison, en fait, il connaît tellement la Ligue 1, tellement même l'écosystème français, tous les clubs de Ligue 1, il est passé à Montpellier, à Bordeaux, à Saint-Étienne. Donc il sait très bien faire. Donc et ça, oui, effectivement, comparé à un entraîneur étranger, les deux précédents, pour ne pas les citer, avec qui il y a eu des gros problèmes, là, ça installe tout de suite. Voilà, il y a tout de suite des fondations. Et il se repose sur lui, quoi. Et ça, ça les aide beaucoup, je pense.
Il a 100 km. Il a été formateur à Montpellier. Il connaît très très bien l'OM. Il connaît très bien la maison. Il connaît très bien la machine. Mais il y a un truc qu'il faut oublier, qu'il faut pas oublier, c'est que la qualité des joueurs de l'OM, ça reste des petits joueurs.
Des
même
petits
si
joueurs.
Gagner 5
pourquoi des petits
mais
joueurs.
Alors,
petits joueurs.
Mais alors, je
n'est pas d'accord.
Je sais pas, en termes de joueurs de plus-value, dites-moi qui ils peuvent vendre.
Il y avait Klose avant que Benassia le défonce. Il y avait Klose qui valait un petit peu
d'argent. Benassia, il ne l'a pas défoncé. Tu veux quoi? Tu sois gentil.
Pas en public. Parce qu'au final, ton joueur, il perd de la valeur. Si tu commences à dire en public que soit c'est un feignant, soit c'est pas un courageux, soit c'est voilà, tu vas le vendre moins cher. C'est ton seul international.
Une réaction. Tu sais, je veux dire, à un moment donné.
Ils vont prendre de la valeur. Ils vont prendre de la valeur quand ils vont faire un parcours en Coupe d'Europe incroyable. Quand en Ligue 1, ils vont se repasser. Et là, on pourra dire oui,
tu sais quoi?
Rongier, il a un peu d'argent.
Non mais c'est pas ça, souvent on parle football, quand on parle de valeur marchande, quand on parle de marchand, c'est pas 10 millions, 15 millions.
De la valeur marchande qu'on voit un joueur.
Ah bah il y a personne. C'est là qu'on voit la qualité. Non, la
pas forcément.
Aujourd'hui,
il y a 50 millions.
Il y a personne à 50 millions. Aubameyang a coûté zéro. Lyon, quand tu regardes la valeur marchande qu'il y a eu à Lyon depuis des années, c'est ce qui a sauvé le club.
Oui.
Ah, c'est ce qu'a sauvé. C'est quand t'as une machine.
C'est que de la formation.
T'as des joueurs qui valent entre 40 et 60 millions d'euros.
Mais c'est que de la formation.
Mais même, tu regardes le Real de Madrid, ils ont des joueurs. Ils ont des jeunes qui arrivent, tu prends Brahim Diaz, ça vaut 5 à l'âge, ça a 19-20 ans, mais ils ont des valeurs, dans leur équipe, ils ont des valeurs marchandes.
Ouais.
Tu prends Warren, c'est quand même une valeur de marchande entre 60 et
80. Ah oui,
mais
c'est la formation.
À un moment donné, le haut niveau.
Le
haut niveau, faut pas. Eh, tu prends à Rennes, il y a de la valeur marchande.
Oui, mais c'est de la formation.
Non,
mais
c'est ça.
C'est de la formation.
C'est
quand même,
c'est
qu'à l'heure,
c'est plus de formation. C'est l'équilibre sportif du club.
Boula.
Ah oui, d'accord. Arrête, t'as une valeur marchande. Mbemba a une valeur marchande. Vertu a une valeur marchande. Mbemba, non.
Arrête,
non. Oui, Vertu.
Ah
si.
tu peux le refourguer en Angleterre pour 20-25 millions.
T'as vu ce que t'as dit le mot ? Tu peux le refourguer.
Tu peux le refourguer.
En Angleterre, j'ai rajouté.
Après, vous l'avez assez chaud ce soir, Alex. Fais attention.
Je pense qu'il faut dissocier deux débats. Il y a la situation de l'Olympique de Marseille en tant que club. Ce que tu dis, c'est vrai.
C'est ça, avec vous là.
Et après, il y a l'aspect sportif. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que Marseille l'année prochaine, par exemple, peut aller en Coupe d'Europe ?
Ça, c'est une question.
Parce que
vu le dynamisme, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu passes pas en Coupe d'Europe ? Est-ce qu'ils ont l'équipe pour faire la Ligue des Champions ?
Ah non.
Brest, est-ce qu'elle a l'équipe pour aller en Ligue des Champions ?
Après, faut pas vous demander pourquoi les droits TV, ils n'arrivent pas à avoir des. Non, c'est parce que ils n'ont pas de club. De grands clubs.
Bon, là, il n'y a que le Paris Saint-Germain en France.
Non, mais ça, c'est une constante depuis 10 ans. Mais après, moi, j'ai envie de dire, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui a autour de 200-250 millions d'euros de budget. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas un budget pour la Champions League. Il faut être clair qu'il faut avoir 2-3 fois plus d'argent pour rentrer là-dedans. Après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'un aspect sur lequel est revenu Gasset, c'est que son effectif, il est fragile. C'est-à-dire que pour l'instant, il
fait jouer beaucoup. Moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, je vais être
ok. On a compris.
Il fait jouer beaucoup des joueurs, mais un nombre limité de joueurs. C'est-à-dire, il a pas de profondeur de banc. Et donc le problème, c'est que si mettons contre le PSG, contre Rennes, contre Lille, il y a une pète. Là, le Marseille va jouer beaucoup de ses adversaires directs sur la fin de saison. Ça peut coûter cher. S'il y a une blessure, ça peut coûter cher.
Pour que c'est très cher.
Sur ce qu'on disait là avec les amis. En fait, là, je pense qu'ils voulaient parler de leur business plan, mais sur plusieurs temps. Là, l'Olympique de Marseille. Ne génère rien niveau centre de formation.
Alexis est d'accord avec toi.
Peu ou pas beaucoup, pardon.
Futur président, c'est ici, je vous le dis direct.
Normalement, Marseille est une grande ville de France, un grand club de football. Ouais. Le centre de formation doit suivre. Oui. Et là, effectivement, on s'interroge. Il faut peut-être qu'il change de business model, de business plan, pour voir un truc sportif s'en dégager. Effectivement, il faut qu'il mise, je pense, plus sur le centre de formation.
Alors, attendez, de Marseille, pas de profondeur de banc. Excusez-moi, j'ai pas le sens de la contradiction automatique. Mais alors, hier, il y avait Quentin Merlin sur le banc, Jean Onana, Kondogbia, Mumbanya, Luis Enrique, Unai, Correa et Blanco.
Ouais, c'est correct.
Je pense qu'il y a plein d'entraîneurs de Ligue 1 qui aimeraient cette profondeur.
Et la valeur marchande. Donc pour répondre,
il n'y en a pas de valeur marchande apparemment.
Il y en a un peu. Non, il n'y en a pas du tout.
Sachant qu'il n'y a pas sur 50 millions, mais il y a de l'argent. Brésil, quand même. On a vendu 24 millions alors qu'il était
Luis Enrique.
Rapidement quand même, on est en train d'avoir des débats sur la santé financière de l'OM. Est-ce qu'ils vont jouer la C1? Je rappelle quand même qu'il y a 3 semaines, c'était un club qui était moribond, qui devait finir 10e du championnat. Donc déjà, je pense que rien que d'être là, je suis pas sûr. En tout cas, ils sont dans la course aujourd'hui pour la Coupe d'Europe. Je pense que rien que d'être là, déjà, il faut capitaliser là-dessus et on se posera les questions. J'ai envie de dire un peu plus tard.
De la Ligue des Champions, surtout.
Non, mais sur ce que tu disais, Augustin, c'est vrai. Enfin, sauf que Merlin, par exemple, contre Dogbia, c'est des joueurs qui théoriquement sont titulaires. C'est-à-dire que la performance justement contre Nantes, c'est-à-dire la faiblesse de Marseille dans le jeu contre Nantes, c'est parce que justement Gasset. Quelques-uns de ses titulaires, pas la majorité, mais une partie de ses titulaires, il les a mis sur le banc, il les a laissés au repos.
Et ça, sur le terrain, cher ami. Il y avait Pape Gueye, Veretout, Harit, Liman Ndiaye.
Oui, Pape Gueye, normalement, il est sur le banc.
Pape Gueye, il y a un truc qu'il faut savoir. Je préfère qu'on donne sa chance à un Pape Gueye parce que l'âge qu'il a, qu'on veut bien. Je préfère un Pape Gueye. Mais il a quel âge? Il a 22, 23 ans. Tu vois pas dans le bordel où il était? Mets-toi à la place de Pape Gueye.
C'est un super joueur.
Juste,
il faut le refaire
signer.
C'est un joueur.
C'est
un bon joueur.
C'est Lodi
qui valait 10 ou 12 ans.
J'ai pas compris pourquoi ils l'ont vendu. Mais là, par rapport à ce qu'on disait, le business plan économiquement, l'Olympique de Marseille doit revoir ses gammes et doit investir sur son centre de formation. Sinon, ils vont recruter des joueurs et ils vont être à perte au bout d'un moment.
Vous restez avec nous, on va revenir rapidement sur l'Olympique de Marseille et aussi les sports de combat pour la dernière partie de cette émission.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, je sais pas si le savait ça, Boulard. Hein, en 1962, c'était le Tché qui était du côté d'Alger pour un fameux discours historique. Hein.
Eh oui.
Je sais pas si, ouais,
eh
oui.
Le Tché, c'est ça quand même. C'est les grandes personnes au moment.
Hein. Eh ouais. Il est avec nous ce soir. Ouais, son illustre enfin, enfant peut-être avec
le grand africain Lubamba.
Eh ouais, ouais.
Et Fidel Castro avec le survêtement de l'équipe nationale d'Algérie aussi.
Bien sûr. On s'arrête là parce que
Ce qu'il faut regarder, c'est la mecque des révolutionnaires.
Ouais, ah ben voilà.
Ils étaient tous là.
Ouais, dans un monde de paix, de bonheur et de partage. En tout cas, en ce mois de Ramadan, c'est la dernière partie de cette émission.
Ce mois de Ramadan, mais faut pas oublier les hommes de l'histoire.
On les oublie pas. Tout comme Boula. Voilà, Boula, on l'oublie pas. Faut pas l'oublier.
Mais ça, c'est sûr.
Allez, on y va.
Time Sport, le mode pressing.
C'est sûr. Karim, tu vas aller loin dans la vie, tu suis Boula. Tu suis Boula. Tu vas rentrer dans un stade, tu suis Boula. Je ne rigole pas. J'ai la vérité, tu rentres à tous les coups.
En tout cas, je pense qu'il a un carnet d'adresses assez intéressant.
Ah, il est assez incroyable. Il est assez incroyable.
Il a l'air comme ça.
Il est tout risqué.
Je te dis que vraiment, tu restes avec Boula.
Mon carnet d'adresses, c'est Beurre FM.
Ben voilà. Voilà, ça c'est une belle réponse avec Alexis, avec HD autour de cette table.
Faut
Karim,
qu'on fasse plaisir à nos auditeurs.
Boula, les auditeurs, les auditrices à qui nous pensons ce soir, ça a foutre comme vous nous écoutez tranquillement avant d'accueillir Vanessa. Et oui, avec Augustin Marseille qui fait ton plaisir, Marseille. Ouais, on espère en tout cas que ça va continuer. Nasser nous disait la dernière fois, ah je sais pas trop, peut-être c'est juste un feu de paille quoi.
Et je après, crois que Descartes disait qu'il n'y a rien de plus inconstant que la constance, mais je pense que on verra à l'œuvre avec dans le dur là dans les 3-4 matchs prochains. Après, effectivement, je pense qu'ils peuvent terminer très bien dans les trois premiers. Vu leur déploiement de jeu, ça m'étonnerait pas. Au grand dam de Boula, certainement.
Et puis Nice qui commence à marquer le pas.
Qui veut que Marseille soit dixième.
Un peu fatigué.
Comment?
Et puis les mecs de Nice derrière qui marquent un peu le pas. Nice. Brest qui peut-être va être un petit peu fatigué après toutes les tensions. Enfin voilà, tout l'influx perdu tout au long de la saison. Du coup, je pense qu'il y a de la place pour finir au moins dans les cinq. Au moins dans les cinq.
Ce qui fait Jean-Louis, c'est quand même exceptionnel quand même.
Incroyable.
Par contre. Après, je me mets à sa place. Les cinq matchs qui arrivent, c'est sûr qu'il a pas le matériel qui va avec.
Qu'est-ce que t'en sais?
Mais bon, est-ce qu'il s'est pas créé une sécurité?
Écoute-moi, déjà hier, il y a pas eu photo. À un moment donné, il y a une pénalty qui est pas sifflée.
D'accord. Mais je vois pas le rapport là avec le matériel, monsieur.
Non, mais quand tu me dis, je vois pas le rapport. À un moment donné, la ligue, ils sont là à défendre leur droit TV. Le VAR, hier, ils reviennent pas sur le truc. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont même pas. Le VAR, il sert à quoi?
Ça ne choque personne. Que Clément Turpin ne sollicite pas le VAR. Par contre,
si Turpin, mais c'est la même. Pour moi, c'est la ligne. Mais faut que tu saches que c'est pas Texier
quand ils sollicitent le VAR.
Non, mais pour moi, Texier et Turpin, c'est des gens qui sont à un moment donné. Il y a des trucs qu'il faut pas siffler et à un moment donné il le siffle pas.
Il
faut
des juges à cause de la VAR. Ouais,
non mais ça je suis pas d'accord. Regarde, hier,
il faut déjuger. Quand tu fais pas appel au VAR, c'est qu'il te déjuge.
Attends Boula, hier t'as City Liverpool et à la dernière seconde il y a Doku qui met une espèce de chassé dans la poitrine de McAllister. C'est la 98e. Monsieur Oliver, il veut pas revoir la VAR. Oui, des erreurs d'arbitrage ça arrive. Même avec la VAR, on pensait pas que la VAR ça allait tout régler.
Mais là tu sais.
Non mais c'est pour dire des erreurs, il y en a partout.
Attends.
Je laisse pas terminer.
Le club le plus médiatique d'Angleterre, il y en a deux. T'as United et Liverpool. Il y a un avantage pour Liverpool.
Mais justement, là, ils ont été désavantagés parce que c'était pour Liverpool le penalty. Et monsieur Oliver, il a pas appelé la VAR et il a sifflé la fin du match. Voilà. Ouais. Regarde la semaine dernière, Madrid-Valence, où Madrid-Marque et où est-ce tout sacré. Tout
Donc, il faut que tu saches que l'argent que les Saoudiens y mettent. À City, ou l'argent que les Qataris ont, les arbitrages, il est fait des fois en conséquence. Et aujourd'hui, ils ont créé. Moi, je dis merci à M. Platini, parce que Platini, il était contre la VAR. La preuve aujourd'hui, il y a plus de problèmes quand il y a le VAR.
Non, il n'y a pas plus de problèmes.
Il n'y a pas plus.
Non, juste on en parle plus parce qu'on pensait qu'il n'y aurait plus de problèmes. Mais il n'y a pas plus de problèmes.
Pourquoi ils n'ont pas appelé le VAR hier?
Parce que le VAR hier, visiblement, d'après les mecs dans le cas, ils estimaient qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. C'est le règlement. Moi,
c'est le
règlement.
Non, mais il y a un truc, je suis pas d'accord.
Il y a un malus
vrai.
Quand un arbitre sollicite le VAR, il y a un malus par rapport à sa notation.
Et déjà. Et quand ils sollicitent le VAR,
et en ce moment, par rapport à M. Lannoy, il y a des grosses polémiques.
Non, mais on peut être d'accord. Donc on devrait arrêter ce malus.
Ouais.
On peut
qu'ils arrêtent de nous mettre des intellectuels dans l'arbitrage.
Ouais, intellectuels selon Boulard.
Des bureaucrates, c'est vrai qu'il y a des bureaucrates. Plutôt pas des intellectuels, des bureaucrates.
Il n'a pas peur, Augustin, des bureaucrates carrément.
Mais bien sûr.
Les arbitres, ils ont un outil.
C'est Bruxelles, quoi.
Les arbitres, ils ont un outil et ils l'utilisent même pas, en fait. C'est incroyable. Normalement, avec la VAR, sur certaines actions.
Il est d'accord avec toi, Solal.
Mais non, c'est même pas. Ben non, c'est pas question de se déjuger. À un moment, c'est juste voir ce qui s'est passé, être dans la réalité, dans les faits.
Turpin ne regarde pas le VAR. Le Texier ne regarde pas le VAR. C'est les meilleurs arbitres, on dit, de France.
Maintenant, il y a autre chose. Il y a ce qui va arriver maintenant, c'est on va entendre, les arbitres vont être équipés de casques, de sonorisation. Comme ça, on pourra voir en direct, comme au rugby, comment ça se passe directement en direct live. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour le football. Maintenant, ils ont des outils, ils l'utilisent pas ou ils l'utilisent mal. C'est un, c'est pas possible d'entendre
mais en fait,
ça.
Oui, mais alors, si on cherche, Alexis, si on cherche l'arbitrage parfait dans le football, alerte spoiler, il n'existe pas. Merci. Parce que, par exemple, au rugby, ils ont la vidéo depuis des années et c'est toujours la même règle pour utiliser la vidéo. C'est est-ce que je vois quelque chose qui fait que la première décision de l'arbitre qui prend sur l'instant T, sur le terrain, je vois quelque chose pour la déjuger. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'en fait, sinon, on va passer tous les matchs devant un écran à dire est-ce qu'il y a pénalty, pas pénalty.
Donc, l'arbitre n'a pas de malus quand il regarde la
même chose.
Vidéo.
C'est pas la même chose.
Il y a des scandales pareils qu'au foot, pareil. Au rugby.
Surtout la dernière Coupe du Monde aussi. Solal, on t'écoute avant de rejoindre.
Pour l'avoir, ça n'a pas changé les conséquences du foot. Pourquoi ça a juste changé la réaction des joueurs après. Il faut que les joueurs arrêtent un moment d'être une génération ouin-ouin qui est capable de sortir le meilleur jeu d'acteur pour faire comprendre à l'arbitre qu'il faut aller voir une VAR qui a été déjà établie déjà par des personnes devant les écrans. Moi, c'est ça le problème. Je regrette une génération pouilleule. Au bout d'un moment, le mec, peu importe VAR ou pas, bah les gars, on est en train de perdre du temps de jeu, on est en train de sortir de notre match. Et en fait, la récurrence, malheureusement, c'est pas l'utilisation de la VAR, mais c'est tout le cinéma qu'ont fait les joueurs des deux
quel
parties.
Quel cinéma? Les mecs travaillent toute la semaine pour les joueurs, ils travaillent toute la semaine derrière pour une faute d'arbitrage. Le
mec,
l'argent qu'il y a sur les mecs qui créent ça, la goal line, là, tout
Boula,
ça. Il y a
Boula,
tout un système de business
truc,
derrière.
Un tout petit truc, c'est que.
Il y a tout un système
avant
de business.
Trouver la boxe.
C'est que moi, je préfère le football comme il y avait
les
avant,
arbitres, ils vont faire des erreurs. Est-ce que Turpin, quand quelqu'un rate un contrôle, il va le voir et lui dit t'es nul parce que t'as raté un contrôle. Quand un joueur, il rate un contrôle. Non, les joueurs, ils font des erreurs, les arbitres font des erreurs.
Et la main de 20 ans,
c'est parti du sport.
En 91,
exactement. Pour terminer sur le sujet, il faudrait plus de communication. Il faudrait que tout le monde entende.
Karim beaucoup terminé.
Il faudrait que tout le monde entende la communication qui entre l'arbitre et les joueurs, et ça va mettre en fait les gens, tout le monde au pied du mur. En fait, on aura plus d'excuses en fait,
et que les arbitres viennent s'exprimer par exemple après en conférence de presse, que la ligue les laisse venir s'exprimer en conférence de presse.
Non, mais faire de la pédagogie.
Quelle pédagogie? Ils ont pas, ils ont aucune pédagogie. Ils font comme ils veulent eux.
Oui, c'est ça le problème.
Comme ils veulent,
on veut des capteurs, on veut des micros, on veut tout ça, on veut entendre ce qui se passe.
Oui, carrément. Quand tu veux un sujet télé sur le terrain, il y a pas de
chat.
Oui, ça marche bien. C'est bien.
Deux choses. Il y a, d'une part, avant je pense que c'est légitime que Nantes soit pas content parce que ça les met dans une position compliquée au classement. Ils sont barragistes, donc c'est ce qui s'est passé a des conséquences aussi au classement.
Exactement.
Et donc c'est légitime qu'ils en parlent. La deuxième chose, c'est que moi, pour revenir à Marseille, là où j'ai encore des doutes, c'est que vous avez des équipes, par exemple comme Lens et Monaco, qui sont devant Marseille et qui, de mon point de vue, pour le moment, sont quand même plus solides que l'OM si on parle de qualification européenne. Donc voilà, moi je reste sur cette idée que pour l'instant Marseille, ils peuvent faire une très belle très belle fin de saison, mais c'est encore loin d'être acquis qu'ils soient européens, et notamment qu'ils jouent la Champions League l'année prochaine.
Les sports de combat, justement, on en a terminé avec l'Olympique de Marseille, place avec toute l'équipe à cette dernier dossier, excusez-moi, avec justement le combat. Il y en a eu beaucoup
de combats,
Cédric Doumbé face à Bakayi. Ouais. Ah bah. Anthony Joshua face à Francis Ngannou et sans oublier aussi Poirier face à Saint-Denis. Voilà, Saint-Denis, c'est ouais. ça, Benoît Saint-Denis. Bah, bravo à lui. Malheureusement, même cette défaite, mais en tout cas, il y avait de la bagarre ce week-end.
Il y avait beaucoup de bagarre. Bah, pour revenir sur Saint-Denis, il a fait son premier poste après le combat, donc il a été mis KO au deuxième round par Dustin Poirier, qui est une légende de l'UFC, qui sera aussi. Sans doute Hall of Fame à la fin de sa carrière, qui a jamais été champion, mais qui a un petit gars de la Louisiane.
Le roi sans couronne.
Ouais, exactement, c'est ça, et ça fait 15 ans qu'il est là. C'est et donc Saint-Denis avait contacté un staphylocoque quelques jours avant le combat. Il était sous antibiotiques et donc dans son premier post sur les réseaux sociaux, il explique que c'est pas la raison pour laquelle il a perdu, mais que ça l'a affaibli et qu'il s'excuse d'avoir pu donner qu'un round qu'il a dominé. Il a dominé le premier round face à Poirier, puis après il a pris un KO assez violent dans le deuxième.
Ouais, carrément.
Et c'est là où je comprends pas. Il était fatigué, malade.
Ouais.
Pourquoi il fait un premier round, il donne tout. Et il veut faire le deuxième round de la même des manières. Mais c'est impossible tactiquement pour un professionnel du MMA. Ouais. C'est impossible.
C'est des combattants. Ouais,
la jauge d'endurance. Mais c'est un humain. C'est un humain.
Mais tactiquement, c'est bien.
Parce que j'ai des choses à dire.
Moi, je suis d'accord. C'est bien ce qu'il dit.
Cette semaine, j'ai assisté à trois matchs. Trois matchs, j'ai pas compris. Ça a commencé avec le PFL, Doumbé Baki.
On
n'a pas compris l'organisation du PFL.
L'organisation.
Ça a continué avec Ngannou entre vendredi soir et samedi. C'est un mythe. Ngannou, jamais j'aurais cru que trois fois il verrait les étoiles en deux rounds. Jamais.
Quand même, les gars sont entraînés dans la discipline.
Oui. T'imagines si t'es champion de ping-pong et d'un coup t'es en finale de Roland-Garros contre Nadal.
J'ai mal à la boxe, j'ai mal à mes sports de combat. Mais oui, parce qu'il faut qu'ils arrêtent le sport business par rapport au sport de combat.
Il veut se reconvertir. Quand même, il y a Mike Tyson aussi derrière lui.
Il a raison sur ça. C'est bien, c'est bien ce qu'il dit au niveau.
Bien sûr.
Le problème au niveau médical,
il va devenir ton agent, c'est Karim.
Le médical, c'est important. Je comprends pas que le médecin puisse autoriser son joueur à combattre. C'est du haut niveau.
Ouais, mais il est apte.
Non, il n'est pas apte. Il vient de me dire que Karim, il n'est pas apte.
Non,
si le mec, il est sous antibiotiques ou quoi que ce soit, ça veut dire que, comme il dit, le sport business, ça veut dire que le sport business, il passe avant le médical. Alors moi,
c'est un staphylocoque, c'est pas une grosse maladie non plus. Tu vois, il a pas un truc. Non, mais c'est une maladie. C'est une maladie.
Arrête au cinéma de journaliste. Écoute-moi.
Je te le dis,
moi, quelqu'un qui est malade, qui n'est pas à 100%, pour moi, le haut niveau, tu peux pas.
Mais si tu peux pas y aller, c'est comment ça, si tu peux y aller? Les mecs qui jouent dans l'infiltration, les mecs qui jouent blessés,
non, dans le haut niveau, il n'y a personne qui joue blessé.
Cristiano, pendant des années, il a joué blessé.
Non, il a pas joué blessé. Il avait un fasciathérapeute qui s'appelait Amidou.
Non, Boula,
il était blessé.
Non,
si tu veux, Boula, il n'a jamais été blessé.
Le sport de haut niveau, c'est y aller. Des fois, quand t'es blessé.
Bien sûr, on y allait. Il a oublié l'époque de Kaiser Beckenbauer avec l'épaule déboîtée. Non, mais laisse tomber. Vas-y, on va retrouver. Tiens, trop parlé, Karim. Excuse-moi, on a le spécialiste aussi de la boxe. Mais il est bon, Karim. Attends, mais je dois faire aussi enchaîner. Il était du côté de Milan. Il a regardé tous les combats. C'est Moussa qui est avec nous. Moussa, tu nous fais quoi? Mais oui, Moussa. Ah ben, tu es là.
Alors, justement. J'ai surtout regardé nos Français. Malheureusement, sur les 5, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Djamili Aboudou, qui a aujourd'hui obtenu son ticket pour Paris. Brillamment, il affrontait un Canadien. C'était un match où il a justement été très très fort, déjà techniquement, physiquement et même tactiquement. Ils ont son coin avec ses entraîneurs, dont un, qui est mon ami d'enfance, Malik Boudian, ont élaboré un plan pour mettre en échec le Canadien. Et ça a superbement marché. Et franchement, on est vraiment, vraiment contents parce que hier, malheureusement, il y a eu une décision très litigieuse, voire, si je peux me permettre, voire un
Alors
peu.
Alors vas-y. Permets-toi, vas-y. C'est-à-dire,
il y a moins de 80 kilos qui s'appelle Yogerlin César, qui a pour moi été volé contre un Ouzbek. Il a boxé superbement. La plupart des gens que j'ai eu le donne gagnant, et malheureusement il l'a pas été. Il est encore jeune, il a que 19 ans, mais c'est un talent incroyable. Malheureusement, il va devoir attendre le deuxième TQO qui va se dérouler à Bangkok pour qu'il puisse pouvoir se qualifier ainsi que tous les autres. Il y en a encore quatre.
Merci, Moussa. Voilà. Eh ben, on verra. Il nous tiendra informé, Moussa, c'est promis, Moussa, concernant les sports de combat. Oui, Moussa, rapidement, c'est la fin de l'émission.
Alors, juste un petit coucou à Sofiane Leidouni qui a malheureusement perdu, mais
Sofiane Leidouni,
le roi de la division au Glory. Ouais. D'ailleurs, il a gagné le tournoi, mais un gros sport à Sofiane.
À Sofiane Aïdouni, à qui nous pensons aussi, à Anis, voilà, il se reconnaîtra, à qui nous pensons ce soir. Alors, on va vous laisser en compagnie de Vanessa. 22h minuit, on se retrouve dès demain à partir de 21h. Un grand merci à Alexis, HD, Karim, bravo à toi, Boula aussi, étincelant, et sans oublier notre illustre Augustin. Et à la réalisation, merci à Solal, bye bye.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.